Amen.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. L'évangile de Marc, chapitre 5, verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, et une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui. Jésus s'en alla avec lui. Si vous ne l'avez pas souligné, soulignez-le. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Et il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais étant allée plutôt en empirant, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule lui dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques, à Jean, frère de Jacques. Et ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main. Il dit, « Talita kumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache, et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Amen. Quel parcours pour le miracle, pour Jaïrus. Et je voudrais vous dire ce matin que ce parcours est divisé en 3 étapes. La première étape du miracle, c'est chercher l'auteur qui est capable de faire un miracle. Et là, Jaïrus, cet homme important, comme nous l'avons lu, c'est un chef de la synagogue. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un mendiant comme Bartimée, ce n'est pas quelqu'un qui est méprisé, rejeté. C'est quelqu'un qui a les honneurs de ses compagnons, de ses amis de la religion. C'est un homme qui a les honneurs et les applaudissements de la foule. C'est quelqu'un qui est haut placé. Et pourtant, cet homme haut placé a un problème qui ne le concerne pas à lui personnellement, mais qui concerne sa propre fille qui est malade. Et cet homme va voir que, à travers les médecins, à travers la science, que personne ne pourra sauver sa fille. Mais il y a quelqu'un qui est en Galilée, il y a quelqu'un qui on appelle Jésus. Il y a quelqu'un qui fait des miracles et sa renommée c'était un peu partout dans toute la Galilée. On disait, Jésus fait des miracles, Jésus fait des miracles, Jésus apporte la grâce, la bénédiction. Et le téléphone arabe, ça fonctionnait bien. Il n'y avait pas que le GPS, il n'y avait pas le GPS, le Facebook et les SMS. Le téléphone arabe existait déjà, de bouche à oreille, d'oreille à bouche. On disait, voilà, Jésus fait des miracles. Et cet homme va se lever de la maison. De sa maison, il va laisser sa maison aux soins des serviteurs, de son épouse. Il dira, fais attention à notre fille, je vais aller chercher secours, je vais aller chercher la solution vers celui qu'on appelle Jésus. Et je crois qu'il y a dû avoir déjà entre sa femme et lui-même, et entre lui et elle, des discussions en disant, mais qu'est-ce que tu vas faire? Nous avons notre religion, nous avons notre pratique, qu'est-ce que tu vas faire? Il va laisser sa femme, il va aller d'une manière urgente. Et la première étape pour le miracle, c'est de venir à Jésus. La première étape pour voir le miracle, c'est de s'incliner devant Jésus. Il s'est prosterné devant Jésus, mais c'est quelque chose que la religion juive ne faisait pas. Pourquoi? Parce que les juifs considéraient Jésus comme un homme, pas comme le Fils de Dieu. Et donc, il ne fallait pas s'agenouiller, il ne fallait pas se prosterner, il ne fallait pas s'humilier devant ce prophète, qu'on appelle ce prophète. Pourquoi? Parce que la religion l'interdisait. Vous vous rappelez la réflexion que Pierre fera à Corneille quand il va arriver dans sa maison. Corneille va se prosterner devant Pierre. Et Pierre lui dira, mais non, lève-toi, moi je suis un homme comme toi, je suis un homme comme toi. Et vous vous rappelez dans Apocalypse au chapitre 19, lorsque l'ange va lui donner un message, Jean va se prosterner, il va lui dire, mais tu vas te lever, parce que moi je suis un compagnon. Pour un juif, il ne valait pas s'agenouiller devant une idole, devant un homme. Mais là, il a perçu, il a eu la révélation, que Jésus était plus qu'un homme, même si le texte ne le déclare pas, il voit en Jésus le Fils de Dieu. Et c'est pour cela que lui, il va se genouiller, il va se prosterner, parce qu'il sait que devant lui, il y a plus qu'un homme. Et je bénis le Seigneur ce matin, au milieu de nous, il y a la présence de Jésus. Nous sommes des hommes, nous sommes des femmes, nous sommes des adolescents, nous sommes des enfants, là dans cette assemblée. Mais il y a au milieu de nous quelqu'un qui est supérieur à nous, qui est plus supérieur à la religion, qui est plus supérieur au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob. Il y a Jésus, le Fils de Dieu, il est au milieu de nous ce matin, gloire à Dieu. Et cet homme va venir, il va s'agenouiller, il va prier avec instance. Et voilà la première étape pour le miracle, c'est chercher le Seigneur. Nous voulons révolutionner, nous voulons qu'il y ait un réveil, nous voulons qu'il y ait un souffle, nous voulions qu'il y ait la bénédiction au milieu du peuple de Dieu. Nous avons besoin de chercher le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, alléluia, et de mettre la priorité, l'essentiel, de chercher le Seigneur de tout notre cœur pour voir la gloire et la puissance de Dieu au milieu de cette église, au milieu de ce quartier. C'est ce que je prêchais à Nice pendant ces quelques jours. J'ai dit, il y a le pasteur Luste, un jour a dit, voilà, j'avais une belle église à Cimiez, c'était rempli, bien rempli, archi rempli. Mais un jour il a dit, moi je vais diviser cette église en plusieurs parties de quartier de la ville. Et gloire à Dieu, maintenant aujourd'hui il y a 5 églises qui travaillent ensemble, et je priais de tout mon cœur. J'ai dit, Seigneur, enflamme ces 5 églises de quartier pour qu'il y ait la puissance du Saint-Esprit, qu'à l'Ardiane puisse connaître le Seigneur et voir la gloire de Dieu, qu'à l'église Nord il puisse voir la puissance de Dieu, qu'à l'église Pasteur de chez Gitan qu'il puisse voir la gloire de Dieu, à Cimiez et à Saint-Augustin, qu'il y ait des choses extraordinaires qui se passent, et nous avons besoin de voir le miracle du Seigneur au milieu du peuple de Dieu. Amen. Nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Nous avons besoin de voir la manifestation des dons spirituels, soit dans la prédication, soit que les chrétiens les exercent. Nous avons besoin de voir ce souffle au milieu du peuple de Dieu pour connaître et voir le miracle de Dieu. Et non seulement il va dire cette prière, il va venir, Il va se prosterner, il va prier, mais il va dire, Seigneur, qu'il y a un contact. Impose-lui les mains. Impose-lui les mains, ma fille sera sauvée. Alléluia, et nous avons besoin d'être en contact avec le Seigneur Jésus, gloire à Dieu. Nous avons chanté ce qu'il a fait. C'est vrai, il fait, mais il est aussi, alléluia. Non seulement on cherche beaucoup le Seigneur pour ce qu'il fait, c'est vrai, mais nous avons besoin de chercher le Seigneur pour ce qu'il est. Il est mon sauveur, il est mon libérateur, il est ma garantie, gloire à Dieu. Et nous avons besoin de savoir qui il est le Seigneur, qu'il est avec nous. Amen. Et non, ça c'est la première étape. Et c'est pour ça que j'ai souligné. Et le Seigneur s'en alla avec lui. Vous vous rappelez dans Jean chapitre 4, quand cet homme vient chercher le secours pour son fils, qu'est-ce qu'il dira ? Descends et viens avec nous à la maison. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit ? Non, non, je ne vais pas, moi. Vous voyez, le Seigneur, il a plusieurs méthodes. Il agit avec certaines personnes d'une manière, avec d'autres, pour voir s'il y a la foi. Et là, la parole de Dieu nous dit que lui, Jésus, va se lever et il va aller avec lui. Deuxième étape, stop au miracle. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une femme qui vient toucher Jésus. Et cette femme aussi est malade. Je ne vais pas rentrer dans le contexte de toute ça, de cette femme. Mais elle va toucher le bord du vêtement. Et la Bible nous dit que, en touchant le bord du vêtement de Jésus, il y a une force qui va sortir de Jésus, mais il y a une force qui va rentrer en elle, parce qu'elle va être guérie. Et Jésus stoppe la marche vers la maison de Jaïrus, vers Capernaum. Et qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir discussion. Qui m'a touché? Alors les gens ils vont dire, mais Jésus, mais c'est stupide cette question. Qui t'a touché? Tu vois pas que les gens, ils te pressent. Oui, il y en a qui pressent, mais il y en a qui touchent par la foi. Il y en a qui touchent le Seigneur d'une manière superstitieuse, d'une manière magique. Et ça, on ne le touche pas comme ça, le Seigneur. Il faut le toucher avec foi. Et cette femme a dit, voilà, si seulement je puis toucher le bord du vêtement, je serai guérie. Elle touche le Créateur, elle touche Jésus. Et là, il va s'arrêter, il va poser des questions, les disciples ils vont dire ceci, ils vont dire cela, la foule, ça va durer. Et là, il doit regarder la montre, Jairus, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'avais le ticket numéro 1, elle, c'est le ticket numéro 2, je suis prioritaire. Et il y a plusieurs questions qui ont dû se bousculer son esprit, et moi, je dois aller vers lui. Et lui, il doit se dépêcher. Mais Jésus est patient. Jésus va à sa marche. Quand on va chercher Jésus, quand Lazare est malade, il dira, ben, qu'il attende. C'est pas le moment. Et Jésus, il a été quand tout est mort. Et l'autre, elle va lui dire, mais il fallait venir il y a 4 jours. Mon frère, il serait pas mort. Jésus, il va à son pas. C'est pas comme moi. Moi, je mange vite. Je roule pas trop vite. Hein, parce qu'il y a les radars maintenant. Il faut que ça se vive. Vite. Ma belle-mère, la pauvre, elle a 88 ans. Quand j'ai mangé, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait mon plat et tout ça. Elle est encore à l'entremets. Mais Jésus va à son pas. Il n'est pas pressé. Mais je crois que c'est une leçon d'attendre le Seigneur en silence aussi. N'est-ce pas? Et il est bon d'attendre le Seigneur en silence. Il écrira le psaume 130, je pense, j'attends avec patience la promesse que Dieu m'a faite. Il avait Jésus avec lui, il avait tout. Il n'avait pas seulement la guérison, il avait le salut, la délivrance, il a la personne de Jésus avec lui. Et là, il attend. Et qu'est-ce qu'il va voir? Lui, il ne devait pas venir. Jairus ne devait pas venir vers Jésus. Pourquoi? Parce que c'est un religieux. Et cette femme ne devait pas venir à Jésus. Parce que c'était une femme et c'était une impure. C'était une méprisée. Et là, il va voir que Dieu ne fait exception de personne. Jésus ne fait exception de personne. Et la parole de Dieu nous dit que il va attendre. Mais en attendant, il va voir un miracle en public, gloire à Dieu. Et là, il va voir la puissance de Dieu. Et la troisième étape, c'est la douche froide. L'étape vers le miracle, le parcours du miracle de Jairus, c'est la douche froide. Je sais pas s'ils étaient à 500 mètres de la maison, mais ils étaient sur le chemin quand ils voient les signes de main de ses serviteurs, qui arrive et dit « Allez, c'est fini. N'importune plus le maître. Ta fille est morte. C'est fini. » Et Jésus dit, sans tenir compte de ses paroles, je voulais le développer plus ce soir, ce matin, sans tenir compte de ses paroles, il lui dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. C'est fini. Eux, ils savent pas qu'il y a l'infini avec lui. C'est impossible. Ils savent pas qu'il y a avec lui, avec Jairus, le possible de Dieu. Impossible aux hommes, à la science, mais possible à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que sans tenir compte de ses paroles, il leur dira, ne crains pas, crois seulement. Combien de paroles on doit recevoir qui voudraient affaiblir notre foi. Vous êtes dans cette manière, dans cette attitude, vous allez rester, vous allez demeurer. Vous avez connu le mal, vous allez rester encore comme ça. Vous allez rester ce petit groupe. Et ça, c'est des paroles blessantes. C'est des paroles que des flèches de l'ennemi qui voudraient atteindre notre esprit pour dire nous rendre apeurés, timides, timorés. Et Jésus dira face à la mort, ne crains pas, crois seulement, sans tenir compte de ses paroles, sans s'arrêter à ses paroles. La parole de Dieu dit en espagnol, sans s'arrêter à la parole, à ses paroles. Combien de paroles blessantes, combien de paroles irritantes, sans tenir compte de ses paroles. David va affronter Goliath. Il y a des paroles, lisez 1 Samuel 17, paroles de son père, paroles de ses frères, paroles de Goliath, paroles de ses propres frères, paroles de ceux qui l'entouraient. Mais sans tenir compte de ses paroles, tu es petit, tu es blanc, tu es beau, tu n'as pas d'armure, on va te prêter l'armure. Comment tu vas aller? Mais crois que Dieu est plus grand que Goliath. Et ses paroles ne vont pas l'affaiblir avant de lui donner de la foi. Non seulement ils vont lui donner de la foi, ils ne vont pas l'affaiblir, mais il va avoir une force, il va courir, alléluia. Il va pas marcher d'un pas lent, il va courir parce qu'il dit, il sait que Dieu est avec lui, sans tenir compte de ses paroles. Néhémie, sans tenir compte de ses paroles, de l'arabe, de l'ammonite et tout ça, de toutes ces personnes qui voulaient l'arrêter à la construction. Ces pierres vont-ils revivre? Vous allez monter, un petit renard, il va venir, pam, il va faire tomber la muraille. Sans tenir compte de ses paroles, 52 jours, ça va construire. Pourquoi? Parce qu'il marchait il travaillait côte à côte, la truelle et l'épée, d'une main, il travaillait en 52 jours, ils vont monter les murailles. Gloire à la muraille, gloire à Dieu. Sans tenir compte de ces paroles, de l'arabe, encore, ils sont toujours au milieu. Sans tenir compte de l'arabe, ils vont tenir compte que le Seigneur est avec lui, gloire à Dieu. Sans tenir compte de ces paroles, Jésus, sur le bois du calvaire, il donne sa vie pour nous, il meurt pour nous. Les passants, Matthieu chapitre 27, il y a les passants qui passent, ils l'injurent. Si tu es le Fils de Dieu, descends. Il y a les hommes religieux qui sont face à la croix. Il disait qu'il allait rebâtir le temple. Allez, descends, si tu es le Fils de Dieu, descends. Sans tenir compte de ses paroles, Jésus est resté. Il avait l'autorité, il avait la puissance de redescendre de la croix. Mais il n'est pas redescendu pour mourir sur le bois du calvaire, pour faire mourir la mort. Gloire à Dieu. Il est mort pour faire mourir la mort. Gloire à Dieu. Il est mort pour guérir le plus incurable, le plus misérable d'entre nous. Il va mourir, mais il ne va pas descendre, gloire à Dieu, sans tenir compte de ses paroles. Sans tenir compte de ses paroles, les disciples, acte 5, 29, on vous défend de prêcher le message de l'évangile. Arrêtez, stop! Ils ne disent pas, on vous défend de vous réunir. Ils disent, on vous défend de prêcher ce nom. Ce nom dérange. Le nom de Jésus dérange. Vous vous rendez compte qu'il y a 25 000, 30 000 chrétiens nés de nouveau en Algérie, arabes. Et il y a 99,99% de musulmans et ils ont peur de ces 30 000 chrétiens. Pourquoi? Parce que s'il donne la liberté, mais le chiffre de pourcentage musulman, il va descendre. Parce qu'il y a l'action du Saint-Esprit. On vous défend de prêcher l'évangile. Ils ont défendu à Cuba de prêcher l'évangile. Ils ont défendu au Pérou de prêcher l'évangile. Ils ont défendu de prêcher l'évangile en Bolivie. Ils ont défendu l'évangile dans tous ces pays, en Colombie, avec les FARC, les Sentiers Lumineux, toutes ces sectes, c'est tout. Si vous allez à Bogota, une assemblée, 35 000, dans un quartier, dans l'autre quartier, 25 000. Alors il y a quelqu'un, je donnais ce chiffre, il dit « Ouais, ben, c'est l'Amérique du Sud. » Ouais, c'est l'Amérique du Sud. Et peut-être on a besoin d'avoir l'esprit américain du Sud. Ou l'esprit de l'Amérique qui vient dans nos cœurs. Nous avons besoin de voir ce souffle. Ils ont défendu, mais ils se sont trompés. Nous avons besoin de voir la gloire et la puissance de Dieu, mes frères et sœurs. Nous voulons te louer et t'adorer, Jésus, sans tenir compte de ces paroles. Que mon frère, que ma sœur, ce matin, ne tiennent pas compte des paroles qu'il a reçues pendant cette semaine, mais qu'il puisse dans la parole de Dieu, ses promesses, que le Seigneur est là avec lui, avec elle, dans ce foyer, sans tenir compte, Seigneur, sans s'arrêter. Mon frère, ma sœur, fais la sourde d'oreille. Fais sourde oreille à toutes ces personnes qui veulent te faire du mal, qui veulent faire du mal à cette Église. Dans le nom de Jésus. Amen.